Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 20 du podcast de Hockey sur demande. Comme vous pouvez voir, cette semaine, je ne suis pas accompagné avec mon collègue habituel Stéphane Grenier d'Entrechum. J'ai un invité cette semaine, Mathieu Vachon, qui est le journaliste pour Le Nouvelliste, mais aussi auteur maintenant, parce qu'il vient, il va sortir un livre au mois d'avril, on va en discuter. Mais tout d'abord, ceux qui ne connaissent pas Mathieu, c'est lui qui couvre en fait Lyon Trois-Rivières là, pour Le Nouvelliste, donc la toute nouvelle formation à Trois-Rivières. Salut Mathieu, comment ça va?
Salut, ça va bien et toi?
Yes. Écoute, on va y aller en deux temps, comme j'ai mentionné pour l'entrevue. On va débuter avec les Lions. Ensuite, on va parler de ton livre là, vraiment plus en détail. Mais je vais profiter de ton passage justement pour discuter les Lions, vu que c'est l'an 1. Et corrige-moi si je me trompe, mais ça semble bien fonctionner du côté des Lions. Lorsqu'on regarde surtout au niveau des foules et tout ça, ça a l'air quand même à bien avoir été chercher bien le marché de Trois-Rivières là, jusqu'à maintenant. Là.
Oui, exact. Je pense que pour l'instant, c'est la principale réussite là, du côté des Lions. On parle de foules qui sont environ là, de 3000 personnes par partie à domicile. Donc, de ce côté-là, c'est très positif. Les gens sont déjà attachés pas mal à leur équipe. Tu sais, le fait qu'ils aient misé sur le fait québécois, justement, l'identité québécoise, je pense que ça a parlé aux gens de la région puis aux gens de la province au complet. Là, tu sais, c'est sûr que là, dans les dernières semaines, ça a été un petit peu plus difficile avec certains développements qui se sont passés. Mais l'identité québécoise a vraiment réussi, je pense, à aller chercher une nouvelle base de partisans. Donc, de ce côté-là, c'est bien parti du côté des foules.
Et aussi, ce que je trouve plaisant aussi, c'est que s'il y a d'autres circuits aussi qui vont en bénéficier. Je sais qu'il y a eu un petit peu de conflit là, entre les Lions et la Ligue nord-américaine, mais tu sais, c'est probablement qu'on va avoir une entente là, qui viendra si c'est pas... je pense qu'il y a discuté à la fin de la saison, donc j'imagine qu'on va réussir à s'entendre de ce côté-là. Mais tu sais, ça donne des occasions justement à des joueurs en fin de carrière qui peuvent aller donner un coup de main dans la CHL. On a vu quelques exemples au courant de la saison. Donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette filière-là québécoise, que tu sais, on n'est pas obligé d'aller chercher un joueur dans le fin fond des États-Unis pour se dépanner. Ouais. Tu sais, on peut aller le chercher directement avec une formation de la Ligue nord-américaine. Fait que ça donne une belle visibilité aussi pour la Ligue nord-américaine. Donc, c'est un win-win un peu pour les deux ligues. Là. En fait, la formation de Trois-Rivières et la Ligue nord-américaine.
Là. Oui, exact. C'est sûr que pour ce côté-là, c'est une bonne chose. Là. Évidemment, comme tu as mentionné à juste titre, la Ligue nord-américaine et les Lions, puis ben, la CHL par la bande, ont comme un petit conflit là, en ce moment là, pour, dans le fond, les joueurs de la Ligue nord-américaine de hockey. Depuis une date, c'est en février, c'était le 23, si je ne me trompe pas, ils peuvent aller dans la SHL, c'est possible, sauf que si tu vas dans la SHL, tu es suspendu un an et demi dans la Ligue nord-américaine. Donc, c'est pas très avantageux là, parce que souvent, les Lions ont besoin de joueurs de la Ligue nord-américaine pour un, deux, trois, peut-être deux matchs, mettons, mais peut-être deux semaines dans le pire des cas. Donc, c'est sûr que c'est difficile de ce côté-là. Il va y avoir du rattrapage à faire peut-être dans cette relation-là. Je pense que les deux clans vont avoir à mettre un peu d'eau dans leur vin dans cette situation-là. Puis, on l'a vu, là, sur le coup, ça a été très, très, très problématique. À un certain moment, là, les Lions avaient une allure d'une équipe senior 3A. C'était pas évident du tout. Là. Donc là, Marc-André Bergeron, il a développé son carnet de téléphone, puis il a été chercher des gars de la NCAA, des gars des rangs universitaires canadiens. Donc là, c'est sûr que là, les Lions, bon, ils approchent quasiment de la marque des 100 joueurs cette année, là, mais ça s'est restabilisé, on va dire ça comme ça.
Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que bon, du côté du Canadien, cette année, ça a été ridicule, les blessures. Donc, lorsqu'on a autant de blessés, ben, faut rappeler des joueurs du Rocket. Et là, le Rocket, ben, eux ont besoin de joueurs des Lions. Fait que là, c'est un effet de boule de neige. Puis, c'est, tu viens de mentionner, on est rendu presque à 100 joueurs, là, du côté des Lions. Donc, ça donne un peu une idée de comment la saison s'est déroulée, là, du côté des trois circuits, là, que ce soit la NHL pour le Canadien, la AHL pour le Rocket et les Lions. Là, c'est des joueurs, là, il y en a eu pas mal là, qui ont passé à travers ces trois équipes-là. Ouais. Mais j'imagine que si on peut justement avoir une entente là, éventuellement avec la Ligue nord-américaine, ça va peut-être faciliter un petit peu plus les choses. Là, parce que, tu sais, comme tu as mentionné, souvent les Lions sont un peu dépendent beaucoup des deux formations au-dessus d'elles. Donc, des fois, on a besoin de joueurs rapidement. Puis, tu sais, ce qui est pratique aussi avec la Ligue nord-américaine, c'est que si tu joues un match à Trois-Rivières, ben, tu sais que tes joueurs ne seront pas si loin que ça. Là. Tu sais, le trajet, c'est quand même assez bien. Donc, tu peux avoir ces joueurs-là rapidement. Contrairement à si tu vas chercher un joueur de NCAA qui, lui, est qui est très loin, là, qui est aux États-Unis, là, qui est quasiment en Californie, exemple. Là. C'est plus long là, avant que le joueur puisse s'amener. Tandis que la Ligue nord-américaine, c'est un quick fix. Mais sinon, sur la glace, comment tu as trouvé le produit du côté des Lions? Bon, c'est sûr que, comme tu as mentionné, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés. J'ai l'impression que c'est un peu de montagne russe du côté des Lions. On avait eu des belles séquences. Puis là, récemment, l'équipe qui en arrache un petit peu plus, là, les matchs, là, c'est un peu difficile là, au niveau des pointages. On a vu quand même des bonnes reins là, que les Lions ont subies récemment. Oui. Mais si on englobe ça là, en résumé, là, pour depuis jusqu'à maintenant, là, comment tu vois ça, le produit sur la glace?
Honnêtement, là, je te dirais que c'est un peu embêtant d'avoir une idée vraiment fixe. J'avais parlé avec quelques personnes, puis j'avais trouvé que c'était une bonne façon de l'expliquer. Les AECHL, c'est une ligue nord-américaine, mais qui pratique à longueur de semaine, puis qui font juste du hockey.
C'est une ligue nord-américaine, mais professionnelle, dans le fond.
Oui, exact, c'est ça. Fait que tu vois qu'il y a un petit échelon de plus. Oui, c'est bon, les gars, ils pratiquent. Mais le niveau du jeu, ça ne va pas jeter personne par terre, là. Niveau robustesse, ça brasse un peu, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, c'est un calibre de jeu qui est tout à fait honnête. Comme tu dis, c'est sûr que là, les performances des Lions cette année, ça a été vraiment en dents de scie, là. Il y a un certain moment, ils ont eu une séquence de 10 victoires de suite et même, peut-être même plus, là, c'était peut-être 11. Puis il y a d'autres moments dans l'année où est-ce qu'ils ont eu une victoire ou deux victoires en 15 parties.
Donc, les défaites, c'était des 8 à 1, puis c'était des défaites assez sévères, mettons.
Là. Exact, c'était le fameux bout où est-ce que l'équipe était du senior 3, là, quasiment. Là. Donc, c'était catastrophique. Là. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça fait en sorte que les Lions se battent pour les séries. En ce moment, si on se parle là, aujourd'hui, là, les Lions sont 5e dans leur division Nord. Et ça fait en sorte que si les séries commencent aujourd'hui, ils ne sont pas des séries, justement. Là.
C'est-tu les quatre premiers, dans le fond, qui passent? Ou...
Exact. Quatre premiers de chaque division qui passent en série. Donc là, les Lions sont 5e dans la division Nord. Donc, en date d'aujourd'hui, où on se parle, ils ne feraient pas des séries. Ça va être assez serré, là, le calendrier. Ils ont des grosses pointures. Ils affrontent notamment, je pense que c'est Reading, qui est l'équipe qui est au premier rang. Je pense qu'ils affrontent à 5 reprises d'ici la fin du calendrier. Ça va être tough un peu, là.
Écoute, on va laisser maintenant la ECHL de côté parce que le sujet principal que je voulais parler avec toi, eh bien, ça te concerne pas mal plus personnellement parce que tu vas lancer un livre le 20 avril, l'histoire de Junior. Écoute, je vais te poser la première question qui est un peu classique, mais c'est toujours plaisant de savoir un peu comment un projet comme ça peut voir le jour. Mais qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage un peu là, pour te lancer dans l'écriture d'un livre?
Oui, bien exact. Donc, moi, c'est sûr que ça fait un bon bout de temps là, que j'avais cette idée-là dans la tête d'écrire un livre, puis c'était de trouver l'idée à quelque part. Justement, le livre qui est à côté de moi en ce moment, c'est 99 Stories of the Game de Wayne Gretzky, avec plusieurs petites histoires, justement, un peu comme ça, mais concentrées sur la Ligue nationale. Donc, moi, j'ai lu ça, ça m'a inspiré. J'ai aussi lu le livre Beauties de James Duty de TSN. Ouais. J'imagine que tu le connais, ouais. Donc, lui, il a écrit ce livre-là, Beauties. Puis, c'était un peu le même principe que celui de Wayne Gretzky. Puis, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire avec une version junior. Parce que moi, c'est le milieu que je connais. Là, ça fait 7 ans que je couvrais le junior avant de m'en venir à Trois-Rivières pour couvrir la SHL. Donc, ça faisait 7 ans. J'avais réussi à développer un bon réseau de contacts. Puis, je me suis dit, OK, c'est bon, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien. Puis, il faut dire qu'on était encore un peu plus dedans, là, mais avec la pandémie, on avait plus de temps libre. Puis, je me suis dit, ça va occuper mes soirées et puis mes fins de semaine quand il n'y a pas grand-chose à faire.
Ouais.
Fait que j'ai été chanceux, ma femme est compréhensive. ça a commencé un peu comme ça. Puis, la première personne à qui j'ai écrit pour savoir s'il pouvait être intéressé à me raconter une histoire qu'il a vécue dans le temps qu'il jouait junior, c'est Simon Lafrance qui évolue avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un homme, il a 23 ans, là, on a 3 ans de différence. On s'est toujours bien entendu. Lui était à Victoriaville un an et demi avec l'éthique de Victoriaville, c'est ça. Donc, on s'est bien entendu. Puis lui, il était, ça me fait plaisir. Puis en plus, il voulait lire le livre de James Duty, donc ça lui faisait plaisir. Puis quand il m'a eu fini de me raconter son histoire, j'ai dit, OK, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis c'est ça, là, j'en suis venu à constituer un livre là, qui a 38 anecdotes distinctes là, là-dedans. Ça va être sur 256 pages.
Puis dans le fond, tu sais, là, oui, c'est beau, il faut que tu aies écrit ton livre et tout ça, mais ouais. Le processus T'sais, de réussir à le faire publier, comment ça a fonctionné? Est-ce que ça a été une route remplie d'embûches ou si ça s'est quand même bien fait là, de trouver une maison d'édition et tout ça?
Ouais, je vais dire ben, franchement que j'ai été assez chanceux de ce côté-là. Je suis pas comme J.K. Rowling qui a eu à l'envoyer à une trentaine de maisons d'audition d'édition. Moi, j'ai eu ça me prend quoi? Peut-être j'ai eu un deux refus, puis la troisième à qui je l'ai envoyé, c'est Hurtubise. Puis au début, c'est ce qui est le plus ironique, c'est que je voulais pas l'envoyer à Hurtubise. Pas parce que je l'aime pas, c'est parce que j'aime trop cette maison d'édition-là, puis je me suis dit, jamais ils vont vouloir publier mon livre. Puis, finalement, c'est eux autres qui ont accepté de prendre mon livre
Ah,
parce
c'est
qu'il y
quand
a un
même
de mes
bien, par
amis.
exemple.
Ouais, exact, tu connais Charles Lalande?
Ben oui.
Charles Lalande, qui d'ailleurs signe la préface de mon livre, il m'a dit, Mathieu, il dit, envoie ton livre à Urtubis parce qu'il dit, ça ressemble un petit peu à la LNH, un rêve possible de Luc Gélina,
Ouais,
avec plusieurs intervenants. Puis il dit, je suis sûr que si tu vois là, ça va marcher. Puis, j'ai écrit à André Gagnon, qui est le directeur littéraire chez Urtubis. Puis j'avais décrit mon projet. Puis il dit, envoie-moi ton livre. Il dit, je suis intéressé, je veux le lire. Puis finalement, ça s'est tout s'est enchaîné. Puis c'est devenu un excellent allié là, là-dedans.
puis tu as mentionné que bon, tu approchais des gens pour qu'ils te racontent un peu des anecdotes, mais est-ce qu'il y a des anecdotes là-dedans que c'est toi-même qui as vécu, dans le sens que, tu sais, comme tu as mentionné, tu as couvert les tics de Victoriel pendant un bout. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as été témoin là, par toi-même, ou si c'est pas mal des intervenants là, qui te racontent là, un peu là, des anecdotes qu'eux ont vécues?
Je m'en suis permis d'en raconter une seule, puis c'est une des plus marquantes que j'ai eues, puis c'est la dernière du livre. Dans le fond, c'est la 38e sur 38, c'est la mienne. Je peux d'ailleurs en faire un peu les grandes lignes, là. À l'époque, j'étais en train de faire un stage à la Tribune, puis je couvrais le Phoenix aussi à travers ça pour Parlons Junior, tu sais, ce fameux site-là,
Oui.
là, on s'en souvient, hein? Fait que moi, j'étais pour Parlons Junior dans ce temps-là aussi, puis j'étais à la Tribune également. Puis à cette époque-là, c'était le repêchage qui s'en venait de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Puis un peu plus tôt, il y a quelques semaines avant, les Sea Dogs de Saint-John avaient remporté la Coupe du Président. C'était l'édition avec Thomas Chabot. Puis il y avait 13 gars, je pense, qui appartenaient à des équipes de Ligue nationale dans cette
Ouais,
formation-là.
c'est une équipe assez pactée, mettons.
C'était épouvantable. Puis cette formation-là était dirigée par Danny Flynn, l'entraîneur. Donc à cette époque-là, moi, j'avais un de mes amis qui est très bien placé dans le monde du hockey. Il a déjà travaillé avec les Remparts de Québec, puis il a un bon réseau de contacts. C'est toujours impressionnant de l'entendre raconter ses histoires. Puis il m'a écrit, puis il m'a dit, Danny Flynn, il dit, j'ai entendu dire qu'il s'en va. Puis à ce moment-là, quand que j'ai su ça, j'ai dit, OK, ben là, je vais faire des vérifications un peu, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'aurait entendu. Puis j'ai eu d'autres échos positifs. Puis, je me suis dit, bon, OK, je vais y aller avec le sacro-saint conditionnel. Mettre ça, Danny Flynn, selon mes informations, quitterait les Sea Dogs de Saint-John. Puis, à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup d'abonnés sur Twitter. Peut-être, c'est une bonne chose. Hein? Mais, à ce moment-là, ça a fait quand même un petit splash, mais pas tant que ça. Il y en a qui m'avaient écrit, puis je dis, voyons, t'es dans le champ. Puis, tu sais, je m'étais fait un peu chauffer la couenne.
Ouais,
Puis,
disons que sur les réseaux sociaux, c'est assez
exact, c'est
facile de se
facile.
faire juger. Si on n'a pas, si on, si on est, on travaille pas à RDS, TVA Sport ou un gros
C'est
journal, là,
ça.
on est pas crédible.
Exact. Fait qu'à ce moment-là, quand que ça s'est arrivé, là, je commençais à stresser parce qu'il faut comprendre que s'il y a quelqu'un qui est très exigeant envers Mathieu Vachon, c'est Mathieu Vachon qui est très exigeant. Donc, de ce côté-là, là, je commençais à stresser parce que j'étais un tout jeune, puis là, j'étais là, je ne peux pas me griller les ailes, c'est une affaire de même, tu sais. Puis, j'ai été chanceux parce que dans la même soirée, il y a un gars, il s'appelle, c'était Mark, pas Mark Seidel, ça, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais lui, il avait marqué à peu près la même information que moi, sauf que lui, c'était un gars de Hamilton. Fait qu'il est entre Buffy et en Ontario. Puis, il a marqué ça, cette information-là. Puis, j'ai dit, bon, mais finalement, je suis peut-être pas si fou que ça. Fait que j'ai laissé ça aller quelque chose. Puis, la fin de semaine, c'était le repêchage des Ligues hockey junior majeur du Québec. Et c'était à Saint-John, d'ailleurs, le repêchage. Donc, tu me vois venir un peu. Moi, j'étais arrivé le jeudi soir. J'étais avec Jérôme Godreau de la Tribune. Puis, on est arrivé le jeudi soir. Puis, le journaliste du droit, Jean-François Plante, en me voyant arriver, ah, il dit, persona non grata, c'est toi, ça. Parce que dans la journée, Danny Flynn, il s'était promené à travers les journalistes pour savoir qui avait parlé du fait qu'il allait s'en aller de Saint-John, qu'il allait quitter son poste. Et puis là, moi, tu sais, j'avais 21 ans, je venais de finir mon cours à l'Université de Sherbrooke. Puis là, moi, j'apprends que Danny Flynn, il me cherche parce qu'il veut me donner de la merde, on va dire ça comme ça, parce que j'ai marqué ça qu'il s'en allait. Fait que là, j'ai pas trop parlé. Le jour du draft est arrivé, le samedi. Puis j'ai croisé Danny Flynn à un certain moment, mais il savait pas que j'étais qui. Il m'avait jamais vu, lui, de sa vie. Puis je peux te dire, j'ai pas été brave, j'ai pas été le voir pour m'expliquer. J'ai fait comme s'il n'existait pas, j'ai pensé tout droit. Puis ça a resté comme ça. Tu sais, à un moment donné, je veux pas une nouvelle, hein, comme ça, ça va vite, ça devient gros, puis ouh, à un moment donné, ça dégonfle. Je lui ai laissé ça aller, lui dis, garde, ça va. Si ça allait faire quelque chose, j'ai utilisé le conditionnel, on verra bien. Puis finalement, ça a été un mois plus tard. Danny Flynn a remis sa démission, puis est parti coacher avec les Winterhawks de Portland. Puis à ce moment-là, je pense qu'il allait occuper un rôle d'adjoint. T'sais, il partait d'un entraîneur qui avait gagné la Coupe du Président avec les Sea Dogs, puis ça allait adjoint avec les Winterhawks de Portland.
Dans le bout du pays en plus.
Ben,
c'est en fait, ça, c'est aux États-Unis, mais c'est dans le coin, plus dans l'Ouest, ben, carrément.
C'est exact. Puis à ce moment-là, Charles Lalande, encore une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit, ah, selon mes informations, Danny Flynn s'en va à Portland. Puis Charles Lalande avait répondu, il dit, c'est Mathieu qui avait, genre, ébruité la nouvelle il y a, genre, 2-3 semaines ou un mois. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai comme réussi à gagner un peu le respect des gens de la communauté médiatique qui couvraient junior majeur.
Ça prend toujours une nouvelle là, que tu es capable là, de breaker, puis après ça, mais c'est de l'avoir, cette fameuse nouvelle-là. Parce que, moi, personnellement, j'ai pas travaillé dans le monde du journalisme, mais j'imagine que ça doit être l'affaire la plus dure de trouver ton premier breaking news pour faire ta place là, dans le monde des médias. Là.
Exact.
Aussitôt que tu dis, tu lances des choses, ben les gens te prennent pas au sérieux parce que tu es un petit clin-clin qui vient de finir son bac universitaire et qu'il n'y a aucune crédibilité. Là. Fait que c'est de trouver cette nouvelle-là qui te met sur la map un peu.
Exact. Puis après ça, la semaine suivante, j'étais engagé à la Nouvelle Union pour couvrir l'éthique de Victoriaville. J'ai couvert cette équipe-là pendant 4 ans. Donc, tu vois que les choses se sont comme enchaînées d'une certaine manière. Fait que c'est l'histoire que je raconte. Puis, les 37 autres histoires, il y en a quelques-uns qui m'en ont raconté comme deux, que je me suis dit, je peux pas ne pas parler d'une ou l'autre, il faut que je mette les deux. Fait qu'il y en a 37 autres d'intervenants, là, puis il y a quand même une brochette intéressante, je te dirais, de personnes.
Puis sinon, au niveau du processus pour écrire, est-ce que ça a été quelque chose qui a été bien compliqué ou si tu n'as pas eu tant d'embûches que ça? Parce que, tu sais, des fois, tu sais, oui, tu as plein d'anecdotes à raconter, mais il faut que tu essaies de... c'est pas que ça dure non plus qu'un roman de 600 pages non plus. Si tu essaies de condenser ça, puis des fois, tu te dis « Ah, ben ce détail-là, il faut que je le mette, parce que sinon, tu sais, si je l'enlève, ça va perdre un peu son sens. Mais en même temps, là, si je le mets, là, je vais en avoir trop. » Tu sais, ça a été compliqué de concocter ce livre-là, ou si au niveau de l'écriture, ça a quand même bien été?
Ça a quand même bien été, je te dirais. C'était assez simple, parce que, mettons, on dit, je faisais l'entrevue avec la personne, puis je l'écrivais comme assez rapidement par la suite. Donc, j'avais encore quand même mes idées dans la tête. C'était bien de ce côté-là. C'est sûr que moi, le bout que j'ai trouvé un petit peu plus difficile, c'était quand c'était les dernières étapes de la révision avec Urtubiz. À certains points, il y avait comme le réviseur, c'est une autre personne qui s'occupait de ça, c'était pas André. Puis le réviseur, il disait « Ah, moi, j'enlèverais tel bout, ah, ça, c'est pas tant. » Là, j'étais « C'est parce que c'est important, je l'ai mis là, il y a une raison. » Puis là, ça a été un petit peu le bout un peu plus complexe que j'ai trouvé d'essayer de faire comprendre à cette personne-là que ça avait une raison d'être. Mais je dois dire aussi que André Gagnon, justement, a été d'une très bonne aide là-dedans parce qu'il m'a toujours répété « Le boss du manuscrit, c'est l'auteur. » Et il dit « Le dernier mot, c'est toi qui l'as. » Fait que si tu dis que ça, c'est important que ça soit là, ça va être là. Fait que ça a été quand même une bonne chose d'avoir un tel appui, là, mettons.
Puis ça fait-tu... peut-être une question un petit peu plate, là, mais tu sais, justement, quand tu es dans le processus de révision, là, tu fais dire, ouais, ça, je suis pas sûr, ça, c'est pas tant bon, pas personnellement, mais est-ce que ça a comme fait mal un petit peu en disant, ben là, moi, je pensais que c'était full bon ce bout-là, puis finalement, tu te fais dire, ah non, tant ça, c'est pas important. Là.
Exact. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, on dit, quand tu fais, c'est ton projet, tu te dis, ah, que moi, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais, mais, tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup, là, des situations comme ça, j'ai été assez. chanceux, on dit, moi, on va dire chanceux comme ça,
Ou
là.
c'est que tu écris super bien aussi, ça peut être ça.
Ça se peut, mais ça, je ne le dirai pas, par exemple, je vais te laisser dire ça.
Ben écoute, je vais te
Mais,
dire ça après avoir lu le livre, voir si.
exact, c'est ça. Fait que, tu sais, de ce côté-là, ça a quand même été pas si pire. Puis, je me répète, j'ai vraiment été chanceux de tomber sur André Gagnon pour m'aider là-dedans. Là, ça a été vraiment d'une très grande aide parce que, tu sais, un projet de livre, il y a quand même plusieurs choses à passer, plusieurs petits détails, tout. Puis, lui, quand il me disait, tu sais, c'est un monsieur qui a une expérience immense. Donc, quand il me disait, Mathieu, peut-être ce mot-là, je le changerais. Là, tu dis, ah ouais, OK, ouais, ça a du bon sens, on va faire ça comme ça, t'as raison. Faut que tu sois ouvert. Faut que tu restes
Ouais,
ouvert parce que tu
faut
te
pas que
dis
t'aies une
que
vision en tunnel non plus parce que c'est
c'est
juste une idée
ça,
en tête, puis
ça
c'est
marche
pas tout le temps
pas,
la
là.
bonne nécessairement là, des fois, là.
Exact. Fait que faut que tu sois ouvert à avoir des critiques constructives. Puis si tu as ça, puis que tu t'en remets entre les mains des personnes qui connaissent ça, moi, je pense que ça peut juste bien aller, puis ton livre va être simplement meilleur. C'est ça, il faut que tu gardes en tête. Puis c'est l'attitude que j'ai eue dès le départ, parce que je me dis que c'est la façon de faire. En toujours se croire, là, c'est le premier que je fais, mais je pense que c'est comme
Ouais,
ça qu'il
c'est
faut le
ça, tu
prendre.
sais, c'est pas, je veux dire, on apprend un peu sur le tas aussi, dans un sens,
Ouais.
tu veux dire, t'as pas un cours à l'école comment écrire un livre 101, tu sais,
Non.
faut que tu l'apprennes sur le tas, mais sinon, au niveau des
Exact.
intervenants,
Ouais.
comment était le processus pour les choisir, tu sais, est-ce que tu avais déjà une liste de joueurs que tu savais qu'il y aurait peut-être quelque chose à raconter, ou si c'est peut-être, mettons, en contactant une personne en tant que telle, elle dit, hey, t'as un peu, moi, je te dirais de contacter celle-là, elle aurait peut-être aussi des histoires pour
Ouais.
toi. Comment ça fonctionnait un peu le processus pour choisir tes
Exact.
intervenants dans ton livre?
Donc, de cette manière-là, avec je suis parti de mon réseau, puis des fois, j'avais parlé avec des gars, que j'avais développé des bonnes relations, puis je disais, ah, lui, c'est sûr que, je pense notamment à Pierre Cholette, qui est rendu là, le directeur du Centre du soutien au recrutement de la LHJMQ, pardon. Pierre Cholette, c'est un raconteur, ma foi, il est incroyable, puis je savais que lui, si j'écrivais, il serait content de me partager des histoires. Puis, d'ailleurs, c'est l'histoire de Pierre Cholette qui rouvre. Ben, une des histoires, parce qu'il y en a deux de Pierre Cholette dans le livre, l'histoire de Yannick Gourde, c'est lui qui a comme découvert Yannick Gourde. Puis il me raconte comment ça s'est passé, la découverte de Yannick Gourde. Puis je te jure, c'est une vraie joke, là. Ça n'a pas de bon sens que ça, tu te dis, ce gars-là, il est rendu double champion de la Coupe Stanley, puis il a été signé un contrat pour venir au Camp des Tigres dans un resto. Entre Lévis et Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage en plein été, tu te dis, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Puis Pierre Cholette, il l'a challengé de façon incroyable pour qu'il se dépasse parce que dans cette année-là, c'est un bout que je vais vous raconter, là, Yannick Gourde, les Tigres avaient dit, écoute, si tu veux revenir à notre camp, il faut que tu finisses dans le top 10 des meilleurs pointeurs du midget 3A à 17 ans. Yannick Gourde avait 17 ans cette année-là, il jouait avec. Des élites de Jonquière. Puis il avait dit, il faut que tu finisses, c'est ça, dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey midget 3. Puis Yannick Gourde avait fini 10e. À, je pense que c'est comme 2 ou 3 points de Jonathan Huberdeau. Mettons, on va dire. Il avait battu Jonathan Huberdeau par un ou deux ou trois points, là, quelque chose comme ça. Puis il avait eu l'invitation ensuite au camp à 18 ans des Tigres. Fait que, tu sais, ça c'est vraiment intéressant. Fait que, bon, Pierre Cholette, je vais passer aux autres, là. Il y en a aussi, j'ai pris des chances, évidemment. J'ai écrit à Bruno Gervais d'RDS, j'ai écrit à Denis Gauthier, puis je disais, OK, on va prendre une chance, voir ces gars-là, ils ont du vécu dans le monde du hockey, ils ont eu des carrières juniors intéressantes. Puis souvent, les gars, ils disaient, oui, ça va me faire plaisir de te raconter mon histoire. Fait qu'il y avait réseau de contact, tu prenais des chances aussi, puis il y avait aussi, comme tu dis, des fois, ouais, peut-être que lui, il pourrait être bon à contacter pour. Raconter une bonne histoire. Donc, il y avait un peu de tout ça. Puis, ça a donné quand même un mix intéressant. Là, t'sais, il y a une couple de gars qui ont joué dans le national. J'ai un first pick, t'sais, Maverick Book, qui est sous la couverture du livre First Pick des Stars de Dallas. Lui, ça fait longtemps que je le connais. Puis, il était vraiment généreux de son temps. Puis, il racontait des bonnes choses. Donc, les gars, c'est le fun de voir ça. Ça lui fait plaisir de raconter des histoires quand que tu lui demandes gentiment. Puis, tout, ils sont très généreux de leur temps.
Sans nommer de nom, parce qu'évidemment, je veux pas qu'on lance là, des gens sur
Spoiler.
l'autobus, mais y a-tu des intervenants que tu as fait, ah, lui, j'aurais aimé ça de l'avoir dans le livre, puis que finalement, ça n'a pas fonctionné, soit parce que tu n'as peut-être pas eu de réponse, ou soit qu'ils ont juste refusé catégoriquement, qui n'étaient pas intéressés, ou.
Ouais, c'est arrivé, c'est sûr. Tu sais, je veux pas, moi, mon projet, à ce moment-là, j'avais pas de maison d'édition qui avait dit oui. Fait que c'était un peu comme du vent, là. Tu sais, moi,
Ouais.
je lui demandais du temps. Puis je ne savais pas si
Tu n'avais
jamais
comme
ça
pas
allait
de
être publié.
garantie que tu avais
C'est ça,
vraiment un
genre.
livre en cours, là.
Exact. Je l'écrivais, mais je ne savais pas si ça allait se faire. Fait que les gars, il y en a gros qui ne vendaient pas trois veaux de temps. Là. Je demandais des fois 30 minutes, 1 heure max, 10 minutes, 15 minutes, ça dépendait. Là, ça... Mais il y a eu des refus, c'est sûr. Puis c'est pas étonnant non plus en même
Non,
temps. Là. Mais ça a été quand même assez minime, là, les réponses négatives. Je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main.
quand même, c'est quand même pas peu que sur, tu sais, c'est près d'une quarantaine d'anecdotes, puis t'as peut-être eu 4 ou 5 refus, c'est quand même
Ouais,
très
à
bon,
peu
là, tu sais,
près.
d'habitude. Surtout, tu sais, exemple, puis tu veux pas non plus te dénigrer rien, mais tu sais, tu commences dans le domaine de l'écriture, fait que t'es pas comme un, c'est pas comme Lugilina qui t'approche, là,
Ben
exemple,
non.
là. Fait que tu sais, ça
C'est
aurait pu
vrai.
être bien pire que ça, mais non, content de voir que ça a quand même été bien, là, pour les intervenants qui ont voulu contribuer à ton livre, là.
Exact. Puis tu sais, comme tu dis, je suis pas Lugilina, puis j'ai pas la prétention de dire que je suis du tout, je sais, puis je comprends ça tout à fait, que des fois, tu arrives, Mathieu Rochon qui décrit pour avoir... du temps pour raconter une histoire pour un livre, c'est comme, eh non, ben, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Moi, c'est bien correct. Là. Je comprends ça parfaitement. Peut-être que ça va être différent là, maintenant que le livre, mon premier, va sortir, que là, la réponse va être différente à cette heure. J'espère que ça va rester positif, puis ben, on verra bien la suite des choses.
Justement, tu avais envie d'un petit peu ouvrir la porte, mais je vais te poser la question directement. Maintenant que tu en as un derrière la cravate, est-ce que c'est quelque chose
Ouais.
que tu aimerais répéter? Aimerais-tu en sortir d'autres? Ou si
Oui,
c'est
oui.
un one time only, puis après ça, on passe à autre chose?
Non, c'est sûr que je vais essayer d'en écrire d'autres. J'ai vraiment aimé le processus. C'est sûr que faut trouver le temps et tout, mais je pense que, mettons, on dit l'été, c'est un peu moins fou entre en Mauricie. Il y a du baseball, il y a quelques sports et tout, mais c'est un peu moins prenant que l'hiver avec toutes les équipes de hockey qu'il y a. Fait que c'est sûr que je vais avoir plus de temps, là, je vais de ce côté-là, hein, éventuellement. Puis c'est sûr que j'ai assez aimé ça pour retenter l'expérience. Puis d'ailleurs, j'ai déjà justement écrit avec André pour avoir quelques. J'ai soumis quelques idées, il m'en a soumis quelques-unes pour des éventuels projets, là. Donc, c'est sûr que on doit se rencontrer bientôt justement pour parler de ça. Fait que ouais, c'est dans les cartons, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi encore, mais c'est quelque chose qui est envisageable, c'est sûr.
Est-ce que peut-être un tome 2 pourrait avoir lieu, ou si tu penses que ça va être, si tu fais un autre livre, ça va être vraiment un projet complètement différent, là?
Mais maintenant, on dit là, en ce moment, j'ai regardé peut-être pour faire une biographie d'un athlète.
OK.
Ça pourrait être quelque chose que j'envisage. Est-ce que tome 2, ça pourrait être quelque chose d'envisageable? Peut-être aussi. Tu sais, maintenant, on va dire, là, on avance un peu dans le néant, on ne sait pas trop parce que ça n'a jamais vraiment fait des livres 100% sujet. À part, mettons, on va dire, Michael Lalanzette qui a écrit son livre sur les remparts récemment. Il n'y a pas eu vraiment de livres sur l'histoire de hockey junior majeur du Québec vraiment tant que ça. Là. Il y a eu un livre sur le Drakkar, je me rappelle que Nicolas Chesnais a écrit ça. Mais tu sais, est-ce
C'est
que
encore
ça va
là,
faire des.
dans les deux cas,
Oui.
c'est, à moins que je me trompe, c'est des équipes précises. C'est comme, il y en a un, c'est
Exact.
les remparts, l'autre, c'est le Drakkar. Là, toi, comme c'est comme le junior en général,
Ouais.
c'est plus large, là.
Exact, c'est ça. Donc, tu sais, on va aller chercher plus large. Puis c'est sûr que vous ne voulez pas. Tu sais, moi, j'ai écrit ça par passion. Puis mon but. Quand j'ai écrit ce livre-là, c'était pas faire de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui disent, tu vas faire de l'argent avec ça, c'est dans le fun. Hey, non, vous n'avez pas compris, là. C'est pas ça, pas en tout mon but. J'ai écrit ça par passion parce que je voulais, parce que c'était un rêve d'écrire un livre. Là, évidemment, comme je te dis, il y a peut-être des implications qui fait tome 2, l'histoire de Junior. Tu dis, bon, si le projet du tome 1 marche, pourquoi pas en retenter l'expérience? Mais on va voir comment ça va être. J'espère que quand même que ce soit quand même bien reçu, puis des ventes intéressantes, mais je connais pas tant que ça encore le milieu d'édition, fait qu'on verra bien là, comment ça va se présenter.
Écoute, moi, j'ai, tu sais, je veux pas non plus de t'enfler la tête puis essayer de te convaincre que ça va être un succès, mais moi, personnellement, s'il y a bien quelque chose que j'adore lire, c'est des histoires de coulisses, tu sais, des choses comme ça. Tu sais, les
Ouais.
gens, on n'a pas accès à ça, malheureusement. Tu sais, je veux dire, on regarde les matchs, on regarde les entrevues d'après-match, mais tu sais, on sait pas, tu sais, comme ton histoire de Yannick Gourde, là, c'est quand même incroyable la façon que ça, qui a été découvert, ce gars-là. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on sait pas. Puis quand on lit ça, on se dit, ben, voyons donc, ça se peut pas que c'est demain que
Exact.
ça soit passé. Tu sais, moi, je pense que c'est une. Ben, là, je parle en mon nom personnel, mais je pense que c'est le genre de truc qui est très intéressant à découvrir, parce que c'est ça, c'est toutes des choses que nous, on n'aura jamais accès à part si on travaille dans le domaine. Puis on s'entend qu'il y en a juste une poignée là, qui peuvent travailler dans le domaine, malheureusement. Fait que, non, moi, honnêtement, je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose qui soit bien reçu là, au niveau des lecteurs, parce que des histoires croustillantes, on aime toujours ça. Puis des histoires dans les coulisses du hockey, on aime toujours ça aussi. Fait que je pense que t'as quelque chose de bien entre les mains.
Mais j'espère, c'est gentil d'ailleurs de dire ça, j'apprécie. Puis comme tu dis, faire découvrir les coulisses du monde junior, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé à écrire ce livre-là comme ça, parce que c'est bon que tu le mentionnes, parce que c'est vrai, c'est une idée qui est importante pour moi. Les gens voient les victoires, ils voient les défaites, ils voient les buts, ils voient le petit gars qui était repêché au premier tour, mais il y a l'envers de la médaille à ça, là, que les gens ne connaissent pas tant. Je parle de Maverick Bourque, lui il m'a parlé de à quel point il y a eu de la pression dans son année de draft, puis il me disait, tu sais, là, les jeunes qui disent que moi, je regarde pas la liste de recrutement que la Ligue nationale sort, c'est tellement pas vrai. On est les premiers à aller regarder ça.
T'sais. Ben oui, c'est sûr.
Exact. Tu sais, il racontait ça, il racontait comment il avait vécu ça. À un moment donné, tu sais, il voyait plein de recruteurs dans un aréna, puis il savait bien c'était pour qui, c'était qui venait voir ce soir-là, tu sais. Fait que raconter, c'est ça, l'envers de la médaille, de voir comment les jeunes deal avec cette pression-là, comment ils deal avec le fait d'être échangé. Parce que nous autres, on est là, ah yes, une transaction, il faut aller chercher un gars pour gagner, mais tu te dis, ouais, il y a une vie qui vient de se faire chambouler. Fait que,
puis surtout qu'en plus, excuse-moi de couper 30 secondes, mais surtout en plus que ces gars-là sont aux études en plus. Fait que là, c'est le transfert de tout ça. Là, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, là, mais s'ils font l'école comme à distance, il faut vraiment qu'ils aillent en présentiel. Mais tu sais, il faut qu'ils changent d'école en cours de saison, que tout soit transféré. Puis tu arrives au milieu d'une année scolaire, c'est pas évident non plus. Tu sais, c'est pas. T'sais, on dit que c'est un peu que c'est plate là, pour les joueurs de la NHL, qu'ils doivent déménager, qu'ils doivent transférer la famille aussi. Mais je pense que c'est pire au niveau junior parce que tu sais, t'es pas placé dans la vie. Là. Ça ne veut pas dire que tu vas faire carrière au niveau du hockey professionnel non plus. Puis là, ta vie à chamboule parce que tu changes d'équipe, tu passes exemple de Québec à Saint-Jean. C'est pas même game pantoute. Premièrement, tu étais dans une école francophone. Là, tu t'en vas possiblement dans une école anglophone. Tu parles pas à moitié anglais. T'sais, c'est tous ces détails-là qui font en sorte que niveau junior, des fois, tu assistes à des choses que t'es comme ça n'a pas de bon sens de faire subir ça à un joueur de 17-18 ans. Là, il n'est même pas un adulte encore ou à peine. Là.
Exact. Je vais te donner l'exemple, un autre exemple dans mon livre. Le recruteur Jean-Philippe Glaude, des Prédateurs de Nashville, il a accepté de me raconter une histoire qu'il a vécue dans le temps qu'il jouait junior parce que c'est un ancien joueur. Il joue avec les Voltigeurs de Drummondville. Puis, à un certain point dans sa carrière, vers la fin de sa carrière junior, il rentra maintenant dans le bureau du directeur général. Puis, il était capitaine des Voltigeurs. C'était pas quelqu'un de. C'était un gars important dans le vestiaire. Puis, le directeur général, il a dit c'est fini pour toi ici. Et il fait quoi? Puis, il comprenait pas. Il dit on va te libérer. On n'a plus besoin de toi ici. On va aller dans une autre direction.
Pas de transaction. Il a été libéré directement.
Non. Exact. Mais en fait, là, après ça, les Voltigeurs ont dit on pourrait peut-être t'envoyer à Moncton, une équipe de fin de classement, tu sais, c'était tough. Il dit non. Fait que dans le fond, dans cette journée-là, il s'est levé le matin, il était capitaine des Voltigeurs. Puis la midi, mettons, on va dire, il était libéré par l'équipe. Puis le soir, il s'est engagé avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour faire un changement puis aller poursuivre ses études à l'université. Fait que, c'est un genre d'histoire de même que pour montrer à quel point la vie d'un jeune peut être chamboulée en un claquement de doigts. Donc, c'est des histoires comme ça là, que j'ai amenées là-dedans. Là.
Puis là, ça sort le 20 avril, si je ne me trompe pas.
Oui, exact.
Donc, y a-t-il un petit événement par rapport à ça ou si c'est un lancement plus tranquille un peu?
Justement, c'est bon. C'est drôle que tu en parles parce qu'on est le 28 mars aujourd'hui. Puis là, j'avais eu une discussion un peu plus tôt dans la journée avec la responsable des communications, checker pour faire ça peut-être à Victoriaville, là, au Gavroche, peut-être. Je ne sais pas si ça va se faire là éventuellement, là, mais peut-être un petit quelque chose pour un lancement, quelques séances de dédicace aussi. Possibilité de faire ça. Donc, quelques trucs à regarder là, dans les prochains jours, prochaines semaines.
Fait que pour les gens qui nous écoutent, surveillez ça le 20 avril, ça va sortir. Pour ma part, moi, évidemment, je vais acheter ma copie, mais je vais en acheter une deuxième pour la faire tirer sur la page de Hockey sur demande. Donc, surveillez la page là, dans ces coins-là, dans le coin du 20 avril, là, parce qu'évidemment, je ne peux pas l'acheter avant, vu qu'il ne sera pas accessible. Mais une fois que le livre va être sorti, c'est clair que je vais en faire tirer une copie, parce que je pense que ça mérite d'être lu. Puis Mathieu, ben, un gros merci de tes précieuses minutes, là, de t'être livré comme ça sur ton merveilleux projet. Très hâte de lire ça et de commenter, de voir si tu as fait une bonne job, mais je suis pas mal sûr que oui, mais ça, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Puis s'il y a un lancement, là, je ne veux pas trop m'avancer par contre, là, mais c'est sûr que s'il y a un lancement, j'aimerais ça essayer de monter avec toi pour assister à ça, mais évidemment, je dis ça sur toute réserve, là, parce qu'évidemment, moi, je suis en plein mode série de la Ligue nord-américaine, c'est la mode diffusion, donc s'il y a un match, ça va être plus compliqué un peu. Mais si je peux avoir l'occasion, là, je vais essayer de monter. Victor, c'est pas si loin que ça. Fait que, peut-être qu'on va se poser là-bas à ce moment-là.
C'est bien gentil, j'apprécie. Puis je suis content d'avoir pu partager ça avec toi. C'est toujours des discussions qui sont le fun.
Excellent. Donc, je vous rappelle, on surveille ça le 20 avril, ça va sortir. Mathieu, encore une fois, un gros merci de ta collaboration.
Merci à toi. Salut.